Eh bien, merci Céline et merci à tout le monde, à Claudine qui vous a envoyé les textes de mon intervention, des textes, je vous ai dit qu'ils étaient à la fois trop longs et trop courts, si on veut, par rapport à l'ampleur du sujet, mais qui me permettront de ne pas trop me répéter et de me concentrer sur quelques points. Et merci évidemment à Jean-Paul Willem qui s'est déplacé, ça me permet de continuer un dialogue entamé déjà depuis plusieurs années, et donc j'espère qu'il n'est pas fini, bien entendu. Alors, je voudrais dire tout de suite que je vous ai envoyé des textes très ambitieux et nous allons brasser une matière énorme. Alors, je voudrais quand même préciser que mon propos n'est pas de construire un système, hein, c'est pas du tout ça que j'ai cherché ou que je cherche à faire, mais de surmonter peut-être ce qui me paraît une faiblesse, peut-être aujourd'hui, de la recherche, et qui est un certain éparpillement de la recherche. Et nous sommes dans une période d'une extraordinaire complexité, hein, d'un éclatement dans un tas de domaines, hein, mais nous sommes toujours devant le risque que l'arbre nous cache la forêt. Hein. Et donc, selon le précepte cartésien, quand on est perdu dans une forêt, il faut choisir une direction. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est donc pas construire du tout un système, c'est pas du tout ça, mais c'est construire quand même des repères, si vous voulez. Et pour essayer aussi après de hiérarchiser les questions et l'importance des questions. Je me refuse à ce brouillage que crée une actualité surchargée aujourd'hui, où tout est mis sur le même plan, si vous voulez. Hein, et toutes les nouvelles nous sont livrées comme si elles étaient d'égale importance. Alors je crois que ça, c'est très nocif pour la recherche et que, en ce sens-là, on peut chercher à mettre un peu d'ordre. Alors j'ai employé ce mot de recherche, qui est un gros mot en ce qui me concerne. J'ai dit d'emblée dans mon travail que je ne sais pas si je suis un chercheur, mais que je me considère comme un enseignant. Et que je maintiens les raisons que j'ai données dans mon texte de regretter qu'aujourd'hui, on fasse presque systématiquement passer la fonction d'enseignant après celle de chercheur. Comme si celle de chercheur était très honorable, extrêmement féconde, prospective, et que l'enseignant était un peu un vieillard radoteur, attaché à des formes de culture obsolètes, ou je ne sais quoi de ce genre. Alors moi, ce discours, je l'accepte comme un fait social, parce que je crois que c'est vraiment un fait social. Il y a vraiment des raisons très profondes à ça, qui sont structurelles, hein, mais je suis un résistant à ce discours. Je crois que c'est dû à beaucoup de choses, à la spécialisation, à la pression du marché, un déficit de considération pour les relations humaines. Hein. À côté d'ici, il y a des gens qui travaillent. Hein, je vais chez eux maintenant souvent puisque je suis à la retraite, donc j'ai des papiers à faire à la DRH, comme direction des relations humaines. Ils travaillent tous les jours sous un oxymore énorme. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir une direction des relations humaines? Quand on y réfléchit, les relations humaines, c'est ce qui va dans toutes les directions. Mais c'est un oxymore énorme. Enfin, pour moi, ça me pose une question. Enfin, mais ça en dit long sur la façon dont on veut précisément apprivoiser ça. Et puis ça tient à un certain déficit de considération pour la culture générale et puis pour les notions de base. Et je l'ai dit dans mon texte, les notions de base dans toutes les disciplines, surtout des sciences humaines, sont les moins assurées. Et c'est par là que ça se rapproche de la philosophie. Je veux maintenir cette dimension socratique que les notions de base contiennent le plus de problèmes. C'est les mots les plus courants, les plus généraux, qui contiennent le maximum de problèmes. Et donc, je veux garder cette orientation pédagogique fondamentale, hein, que je crois que le travail intellectuel commence quand on confronte la complexité des faits, hein, à la faiblesse des notions, des représentations que nous en avons. Hein, et ça, pour moi, c'est le cœur du socratisme, hein, et d'une réflexion interrogeante. Or, c'est beaucoup plus facile d'être pointu sur des concepts très spécialisés. Mais justement, et surtout dans les périodes de crise, on se rend compte qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les notions générales. Et ça, pour moi, c'est la grande leçon que j'avais retenue d'une lecture de Platon il y a déjà de nombreuses années, mais c'est ce qui fait pour moi la pérennité de cette démarche. Alors, vous l'avez dit, il y aura deux parties dans notre journée. La première partie est vraiment une archéologie, hein, on va faire de la rétrospective, je vais parler de ce que j'ai fait, hein, et puis de ce que je voudrais faire autour de la notion de religion. Et puis la deuxième partie cet après-midi sera beaucoup plus prospective, hein, puisque nous allons revenir dans les problèmes d'actualité, autour des problèmes de la modernité et de la, des mutations dans la société contemporaine, du rôle qui jouent les religions et de l'impact que ces mutations ont sur elles. Alors, premier exposé, donc, archéologie d'une question et question sur une archéologie. Je vais vous inviter à réfléchir à la notion de question et d'archéologie appliquée à la question qui est centrale dans ma réflexion et qui est la question de la religion. Alors, j'ai commencé par de rapides allusions biographiques sur mon intérêt pour les questions religieuses, mais c'est simplement pour vous donner un cas pour réfléchir à l'intérêt de réfléchir sur la question de la question. Qu'est-ce qu'il y a au départ d'une recherche ? Au départ d'une recherche ou d'un itinéraire intellectuel, il y a toujours des questions. Or, une question, c'est jamais clair. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question pour un chercheur ? Et je pense qu'il y a deux types de questions et qu'il ne faut pas confondre. Il y a les questions que j'appelle d'une vie qui naissent de ce qu'on est, de ce qui nous a fait, et chacun a les siennes. Et là-dessus, je ne suis pas loin de penser, comme disait Bergson, que, il le disait des grands philosophes, qui n'ont toujours eu qu'une question. Et ça, c'est énigmatique, mais ce n'est pas faux, même s'ils s'en rendent compte très tard et qu'ils ne la découvrent que très tard. Ça ne veut pas dire que c'est la première des questions qui se sont posées, sûrement pas, mais qui n'en ont peut-être qu'une. Et puis il y a les questions du jour. Les questions du jour, c'est ce que nous impose le moment, l'histoire, les commandes, le marché. Or aujourd'hui, je crois que la difficulté pour un jeune chercheur, c'est de trouver une bonne question. Et une bonne question, c'est une question qui devrait être à la rencontre de plusieurs exigences, l'intérêt personnel, parce que je ne crois pas qu'on peut travailler longtemps sur une question qui n'est pas la sienne. Mais une question qui a une valeur heuristique, or on ne sait pas quelles sont les bonnes questions du point de vue heuristique. Si on le savait au départ, c'est qu'on aurait la réponse. Il y a des impasses dans la recherche. Il y a des questions inutiles. Quelles seront les questions qui compteront d'ici peu, voyez, ou demain? Donc il faut négocier entre tout ça. Et moi je vous avoue que j'étais assez heureux parce que j'ai pu finalement travailler sur les questions de fond qui m'intéressent depuis toujours, et y revenir, et je pense que ça, c'est une source de joie intellectuelle. Et ça compte beaucoup pour un enseignant, parce qu'un enseignant qui n'a pas de joie intellectuelle, il ne peut pas communiquer son savoir. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il y aurait à réfléchir aussi. Alors, mais la question de la question va plus loin que le choix de la question. Elle amène à la question de la méthode. Alors, vous savez que je suis un sociologue de tradition durkheimo-mossienne, je l'ai revendiqué explicitement. Et en particulier de Mauss, qui m'a toujours intéressé, parce que je crois qu'il y a un paradoxe profond dans le rapport de Mauss à la méthode. Vous avez des textes, surtout dans sa jeunesse, où c'est un combattant de la méthode durkheimienne, pour son extension, donc en particulier du côté de l'histoire et de l'ethnologie, qui à l'époque ne se concevait pas du tout comme des sciences sociales. Il leur dit, voilà, vous devez devenir des sciences sociales, et nous les sociologues, on va vous donner la méthode pour ce faire. Et donc là-dessus, il bataille beaucoup. Et puis vous avez surtout à la fin de sa vie, dans l'entre-deux-guerres, des textes où Mauss dit la méthode, métaodos, c'est ce qui vient après le chemin. Il joue sur l'étymologie. C'est ce qu'on découvre quand on a fait le chemin. Et il dit, chaque chercheur se débrouille comme il peut. Je pense qu'il a pensé se démerde comme il peut. Mais il était poli. Alors, donc il y a des propos anti-méthodologiques chez Mauss qui sont très intéressants. Et ce paradoxe cache un fait profond. C'est que Mauss veut dire qu'il n'y a pas de méthode pour inventer. Et tout travail intellectuel est fondé sur des intuitions singulières, si vous voulez. Mais la science est un travail collectif. C'est ça le paradoxe. Il y a des gens qui ont du génie, il y a des gens qui trouvent. Tous les chercheurs ne sont quand même pas de même niveau. Ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas la même ampleur de pensée, etc. Et puis en même temps, la science est fondamentalement, ça c'est son essence, une pensée collective, un travail de recherche collectif. Et donc la méthode est à l'interface de l'individu. Il n'y a pas de méthode pour inventer, mais il y a des méthodes pour prouver. Il n'y a pas de méthode pour trouver, mais il y a des méthodes pour prouver. Et c'est là qu'on ne peut pas y échapper. Et c'est là qu'elle est évidemment tout à fait fondamentale. Donc la méthode est du côté du travail de la preuve. Parce que c'est comme ça la différence qu'il y a entre la science et la littérature, ou l'art. La littérature ou l'art n'ont rien à prouver. Ils créent, mais ils ne prouvent pas. hein, tandis que la science doit prouver. Et là, la méthode est fondamentale. Ensuite, Mauss dit, et il a raison, la méthode sociologique reste seconde. Ce n'est pas du tout un hasard si dans l'histoire de la pensée européenne, depuis les temps modernes, c'est la première méthode scientifique dans une science qui n'était pas encore dite science humaine à l'époque, c'est la critique historique. C'est-à-dire, qui fait quoi à qui dit quoi à qui, où, quand, comment, pourquoi. C'est-à-dire la méthode qui met en place les catégories fondamentales, l'espace, le temps, le sujet, l'acteur, etc. Et donc, la méthode sociologique est une méthode seconde qui vient après pour généraliser, si elle le peut, les résultats de la méthode historique. Et là, il y a un débat engagé, et Mauss était très conscient de ça, parce que Durkheim avait voulu quand même prendre le modèle des sciences de la nature, et il y a dans la pensée de Mauss un retour du problème de l'historicité. Mauss voit très bien, par exemple, que si les gens, son texte sur le communisme est un texte fondamental, inépuisable, que si les gens racontent tant de bêtises sur l'Union soviétique, c'est parce qu'ils croient le discours de la propagande, par exemple, et que donc ils n'appliquent pas la méthode critique des historiens. On ne peut pas faire une sociologie si on n'a pas d'abord des faits historiques construits selon les exigences de la critique historique. Et ceci pose la question, dès lors qu'on pose cette question-là, de l'historicité des faits sociaux, nous sommes devant la question du comprendre. Car la distinction du comprendre et de l'expliquer est un problème né de la pratique de l'histoire. Hein, et des historiens en Allemagne au XIXe siècle où ce problème a été théorisé. Et c'est pour ça dire qu'il y a à la fin de Mauss, hein, dans ses derniers textes, il y a un tout petit texte très intéressant, très accueillant à la Verstehen de sociologie de Weber, où il dit, oui, il a raison, sur le problème historique, il y a bien un problème du comprendre. Et Mauss avait bien posé ce problème du comprendre, mais il l'avait posé à partir de l'ethnologie. Mauss avait parfaitement compris qu'on ne peut pas expliquer qu'un ethnologue ne peut pas prétendre expliquer une société s'il ne prend pas d'abord le temps de la comprendre. Or, qu'est-ce que c'est que comprendre ? Je crois que la réponse la plus simple, c'est comprendre la question que les autres se posent, ou la question qui est à la base de la pratique des autres et que quelquefois, ils ne peuvent pas se formuler. Comprendre, c'est quand même toujours retrouver et rencontrer la question. Alors, laquelle ? La question qui naît d'une vie, la question qui naît d'un contexte historique, la question qui naît d'une histoire, la question, quelle était la question des gens qui ont écrit les textes de la Bible ou je ne sais pas quoi, alors ça on est dans les problèmes d'exégète, et de ceux qui les ont relus, etc. Mais c'est toujours retrouver une question. Et donc quelle est la question qu'il y avait à la base des institutions, des pratiques, des transmissions, des mythes, etc. Et ça, cette question, elle est abyssale. Et je crois que beaucoup de discours sociologiques se plantent parce qu'ils prétendent expliquer avant de prendre le temps de comprendre. Et de ce point de vue-là, l'échec du marxisme, qui est quand même, je crois, très lié à son échec dans la sociologie de la religion, vient de là. Je crois qu'un jour, on dira combien a pesé, a obéré le destin du marxisme, son incapacité à comprendre le problème religieux. Non pas que Marx n'ait pas apporté des choses fondamentales dans la théorie des idéologies, c'est prodigieux ce qu'il a apporté, mais est-ce qu'il est allé au cœur du débat, est-ce qu'il est allé au nœud de l'affaire? Et ça, ça a obéré le marxisme qui a soulevé tant d'espérances, c'est quand même brisé sur des... Et il ne s'est pas que brisé sur l'économie, comme on croirait, on nous le dirait, depuis 1992, quoi. Ils n'ont pas pu résister à la pression américaine de l'URSS. Ce n'est pas seulement ça, c'est quelque chose de plus profond aussi, et qui reste d'ailleurs, qui est encore, la question n'est pas réglée en Chine ou ailleurs. Bon. Alors, donc, pour moi, c'est un axiome, on ne peut pas expliquer ou prétendre expliquer ce qu'on n'a pas bien compris. Et cet axiome est très important pour, je dirais, dans la pratique après, le dialogue des cultures et des civilisations. Moi, je suis frappé à lire quand même beaucoup de textes de gens du monde de l'islam, combien ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on dit d'eux. Et ça, faut écouter ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut que la parole de l'autre est un absolu qu'il faut accepter à genoux, mais ça pose toujours la question, est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Et ça, ce problème est une question préalable. Et donc, tout ça m'amène à réfléchir sur la question de la question. Et j'ai voulu vous dire dans mon premier texte que cette question va prendre de plus en plus d'importance. Elle devient même un secteur de la réflexion philosophique, ou rhétorique d'ailleurs, qu'on appelle la problématologie, et qui, moi, me paraît un domaine fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Qu'est-ce que c'est qu'une question? Pourquoi ça émerge à tel moment, etc. La problématologie me paraît, moi, à terme, une des disciplines susceptibles peut-être de réunifier un petit peu le champ si éclaté des sciences humaines. Je vous renvoie à un livre que je n'ai pas cité, j'ai même mal orthographié son nom. Je pense à Michel Meyer, M-E-Y-E-R, qui a écrit un livre qui me paraît fondamental, qui est une brique, hein, mais vous pouvez le lire pendant vos vacances, vous allez apprendre quelque chose, « Questionnement et historicité », hein, publié au PUF 2000-2011. C'est un livre remarquable, par un philosophe de la rhétorique, si vous voulez. Hein, il continue à Bruxelles la tradition de Perelman et de ces gens-là qui ont renouvelé la pensée de la rhétorique. Et je vais vous dire pourquoi, pour moi, c'est fondamental. C'est non seulement une autre réflexion sur la rhétorique, c'est quelque chose qui va plus loin. D'ailleurs, c'est amusant parce que Meyer, moi que je ne connais, je lisais ses bouquins, et je le cite dans le symbolique et le sacré, il m'a écrit, il m'a envoyé un livre pour que je lui envoie le mien, il est malin. Bon, alors j'ai perdu au change en matière de volume, mais on a eu une correspondance intéressante parce qu'il m'a dit, tout ce dont vous parlez, moi j'en parle aussi en faisant de la rhétorique. Il dit, mais toutes les questions que vous soulevez dans votre bouquin, j'en parle aussi, c'est assez amusant. Bon, alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je dis que, moi je prétends, la rhétorique, et c'est pour ça que la rhétorique revient toujours, est peut-être la seule discipline qui pose l'intégralité de la question intégralement. Vous savez que les trois champs habituels de la rhétorique, c'est le logos, donc la raison, le discours mais qui résonne, l'argumentation, donc on argumente en rhétorique, il faut prouver. Hein. C'est le pathos, donc les passions, l'affect, l'émotion collective, enfin, hein, il y a eu un accident, un crime, je ne sais pas quoi, bon, ben, il y a un pathos, hein, tout le monde est sous le choc, sous le coup, hein. Et puis il y a l'éthos, qu'est-ce qu'on va faire, hein. Et d'abord l'orateur va dire, ben voilà, suivez ma parole, faites-moi confiance, ralliez-vous à ma thèse. Donc je dis la rhétorique est la seule discipline qui repose l'intégralité de la question. Une vraie question, c'est une question qui met en jeu un logos, un pathos et un ethos. Et une crise, précisément, c'est la dissociation de ça. La raison, l'affect et l'ethos se dissocient. Alors, on ne sait plus quelle voie prendre, on ne sait plus à quel argument se tenir. Et en général, c'est le pathos qui gagne, c'est l'émotion qui s'impose. Alors, je dis aussi qu'il y a peut-être là une piste pour réfléchir à la subjectivation religieuse. Et donc, répondre à mon problème, parce que moi, j'ai fait une archéologie du point de vue de l'extérieur du religieux, mais mon problème maintenant, c'est d'esquisser une approche de la subjectivation du religieux. Et en particulier, la rhétorique ici est utile, parce qu'elle aide à réfléchir à l'imbrication du sens et du vécu, du logos et du pathos, alors que la science est construite sur leur dissociation. Mais l'expérience et l'expérience religieuse est construite sur leur imbrication. On pourrait poser le même problème autrement et dire que la différence de la rhétorique avec la science, c'est le rapport aux valeurs. La science en a un, mais elle doit l'oublier, le mettre entre parenthèses. La rhétorique seule met les valeurs au centre de la discussion, sans doute pour les imposer. Et en ce sens-là, la rhétorique, la pratique rhétorique est une discipline de combat. Et de ce point de vue-là, elle est à l'opposé de la science. Mais on peut faire passer la rhétorique du statut de l'arme au statut de l'outil. Et se servir de la rhétorique, de la problématologie, et du débat sur les valeurs pour nous enfoncer dans l'officine de la production des valeurs, comme Thésée dans le labyrinthe du Minotaure. Et donc, je pense ici qu'on peut prendre la rhétorique non comme seulement une technique esthétique de production de fioritures, hein, le pathos réduit au trémolo, hein, de l'orateur, ça on s'en fout, hein, non seulement comme une pratique sociale discutable, un art pré-scientifique ou une sophistique où depuis Platon on voit un complot contre l'idée de vérité, ou même comme un simple produit d'une culture particulière, dans le cas la culture grecque. Je pense au contraire qu'on peut prendre la rhétorique comme un outil parmi d'autres, mais particulièrement approprié pour se rapprocher du fonctionnement de l'esprit humain. Je vous dirais ce que je tire de ça dans mon rapport au structuralisme. D'ailleurs, il y a des faits sur l'universalité de la rhétorique. La palabre africaine, c'est quand même un moment. Moi, ça m'a toujours frappé avec les étudiants africains. Ils ont un sens inné de la rhétorique. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la négociation de quelque chose et avec les autres. Et ça, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir. L'argumentation des rhéteurs sophistes chinois, c'est prodigieux. Les sophistes grecs, c'est des enfants de cœur à côté des sophistes chinois. Lisez les travaux de Jean Lévy là-dessus, c'est prodigieux, c'est passionnant. C'est des pourfendeurs incroyables. Et ils retournent tous les arguments avec une force, pour ne pas dire une violence. Il y a un texte de Lafito, prodigieux, qui m'avait vivement frappé, où Lafito parle de l'éloquence des Iroquois et la compare à l'éloquence des anciens. C'est un des plus beaux textes de Lafito et qui est tout à fait étonnant. Pourquoi ce culte de la parole? On pourrait mettre là tous les faux départs et les vrais retours de la rhétorique. On dit toujours qu'elle est condamnée, cette discipline. Et à chaque période de crise, elle revient. Et les rhéteurs prennent le pouvoir quand les certitudes collectives se défont. Ou la réflexion sur le développement de la publicité dans le capitalisme contemporain. La publicité est une rhétorique de la marchandise au service d'une sophistique de l'intérêt. Or, on dépense des milliards aujourd'hui pour tout ça. Donc, voyez pourquoi. Et ça joue un rôle dans mon débat avec le structuralisme. Parce que j'ai essayé de situer rapidement la sociologie vis-à-vis de l'histoire et de la critique historique. Il me semble que l'autre volet, aujourd'hui, pour penser le problème de la sociologie et d'une sociologie de la religion, c'est de la situer par rapport aux sciences du langage, débat dominant depuis 40 ans, mais qui, à mon avis, a été mal posé par le structuralisme. Parce que le structuralisme a cru trouver la réponse dans la phonologie. Or, la phonologie, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait la discipline qui nous mène au cœur du débat. Et c'est peut-être là qu'est l'échec du structuralisme. En revanche, si nous reprenions la rhétorique, peut-être que nous pourrions reposer vraiment le problème du rapport de la sociologie avec les sciences du langage. Alors c'est ça qui est l'idée. Et j'en tire trois choses, enfin une première conclusion. C'est qu'il me semble que la sociologie doit réfléchir à trois niveaux. Les vécus, car il y en a. Il y a les vécus du chercheur, il y a les vécus de son objet. On travaille sur des gens qui vivent et qui sont d'abord pris dans des vécus. Alors qu'on se serve de la phénoménologie, qu'on se serve de tout, de l'observation participante, qu'on se serve de tout ça, mais on a à restituer des vécus, c'est-à-dire à comprendre, parce que le comprendre, il naît dans le vécu. Le comprendre est du côté du vécu. Vous ne l'avez pas vécu, vous avez du mal à le comprendre. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut se dire. Et il faut y réfléchir. Alors ensuite, des structures. Mais mon débat avec le structuralisme fait penser qu'il faut traiter toutes les structures comme historiques. Et enfin, les mécanismes. Et que quand il y a une crise, eh bien, il y a une crise parce qu'il y a une dissociation entre les vécus et les structures. Les structures et les vécus ne correspondent plus. Il ne s'emboîte plus, ça se déboîte, ça se disloque, ça se sépare. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à penser les structures beaucoup mieux à ce moment-là, parce que ça se sépare des vécus et on arrive à les objectiver plus facilement. Mais la crise, étant le déboîtement des vécus et des structures, amène quelquefois le retour de mécanismes, et en particulier justement au niveau du langage, il faut refonder l'argumentation, il faut relancer la machine rhétorique. Et peut-être même à des formes beaucoup plus primitives, je pense à des mécanismes comme celui du bouc émissaire, qui peuvent, dans certaines formes de crise, nous répéter à la gueule, comme ça, ressortir, et à la surprise générale, on se croyait libéré des grands esprits, on est les héritiers des Lumières, et puis on se retrouve en train de taper sur un pauvre mec, comme une bande de sauvages, enfin. Donc il y a des mécanismes. Et pour moi, les deux mécanismes sur lesquels je réfléchis le plus, justement, mais ça, je ne l'ai pas mis dans mon texte, c'est d'un côté la métaphore et la métonymie, qui me paraissent le cœur de l'entrée, mais qui est au cœur du processus rhétorique. La rhétorique, c'est faire partager ces métaphores et ces métonymies. Voilà, si je vous dis que M. Untel est un porc, Alors évidemment, il ne va pas être content, hein, mais l'orateur, ou au contraire, je vais essayer de laver de cette métaphore injurieuse. Alors c'est ça qui est en jeu. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces mécanismes élémentaires. Et moi, je réfléchis, j'essaierai de produire quelque chose autour du thème de la métaphore et de la métonymie, d'une part, et du bouc émissaire, de l'autre. Et il y a sûrement des rapports, en particulier entre la métonymie et le bouc émissaire, puisque le bouc émissaire est toujours une partie prise pour un tout. Donc il y a une espèce de métonymie pratique dans le phénomène du bouc émissaire. Hein. Il y a je ne peux pas développer ça. Alors voilà, ça, si vous voulez, c'est ce que j'appelle, c'était la première partie de ma première partie, donc l'archéologie d'une question. Alors maintenant, je voudrais dire un mot sur les questions posées par mon archéologie. Alors mon archéologie de la religion, elle est à peu près quand même dans le symbolique et le sacré. C'est une tentative d'archéologie. Mais il pose évidemment autant de questions qu'il essaie d'en résoudre. Donc il faut réfléchir maintenant à ces questions-là, c'est ce que je fais à partir de la page 9 de ce livre. Alors, ce bouquin est construit d'abord pour essayer de répondre à la question de l'aporie de la définition de la religion. Et je crois que l'aporie principale, celle que j'essaie de dépasser, c'est qu'il y a deux familles de définition de la religion. Une qu'on peut dire monothéiste chrétienne, d'une part, et l'autre pagano-romaine, si vous voulez, ou romano-païenne, de l'autre. Dans le monde moderne sécularisé, la définition chrétienne de la religion, aujourd'hui, se mondialise. Elle est mondialisée. Si vous prenez les Chinois, par exemple, ont introduit la notion de religion qu'ils n'avaient pas, et ce qu'ils ont introduit, ils l'ont introduite sur un modèle chrétien, hein, et c'est passé dans les textes juridiques, etc. Et elle supplante toute autre définition de la religion. Mais je pense que le coup de génie de Durkheim a été de voir que la définition de type romano-païen, même sans être nommée, correspond à des faits répandus quasiment partout. Mais ce type qu'on va appeler de religio, hein, la religion au sens romain, n'a pas pensé son universalité. Alors que l'idée monothéiste a permis au christianisme d'inventer un concept universel de religion. Les religio, selon le concept, selon le type pagano-romain, bien qu'ayant une universalité de fait sociologique et anthropologique, s'arrêtaient à leurs différences. Elles ne revendiquaient pas une universalité de droit. De ce point de vue-là, on pourrait comparer aux langues. Il y a des langues qui se pensent universelles, comme le français, hein, ou l'arabe, et puis des langues qui se pensent comme des langues de fermeture. Les linguistes l'appellent les langues de fermeture. C'est le berbère. Pourquoi le berbère a perdu du terrain face à l'arabe au Maghreb, hein? Parce que le berbère est enfermé dans son localisme. Et ils sont comme les gens du Cotentin de mon enfance. Oh, les gars, à 10 km de chez eux, ils disent, ils ne causent pas comme nous. Ils n'ont pas le même preci. Alors, dans la Manche, les Mayennais disaient, ils ne causent pas comme nous. Et dans la Manche, ils disaient, ils n'ont pas le même preci. Vous voyez, c'est les dialectes. C'est des langues de fermeture, c'est des langues de l'entre-soi. Et les paganismes étaient des religions de fermeture de l'entre-soi. Hein? Et donc, ils ne pensaient pas qu'il puisse y avoir une universalité, ils ne pensaient que leurs différences. Oh, ils ne sont pas comme nous. Oh, ils ne font pas tout à fait la même cuisine comme nous. Ils font pas... Voilà. Alors, allez. Et donc ça, il faut réfléchir à ça. Et il y a ces deux traditions. Et donc... Il faut expliquer ces deux familles de religions, hein, de définition de la religion. La religio des Romains, c'est d'abord un culte, hein, c'est le scrupule cultuel. Hein, alors que la religio des chrétiens, c'est d'abord la foi, hein, c'est-à-dire une relation, hein, entre un individu, une personne et une transcendance et une communauté, qui est normalement une communauté d'élection. Alors que la religio, c'est d'abord une fidélité dans l'accomplissement d'un rituel reçu des ancêtres. Et c'est un système qui maintient un entre-soi. Alors là, on est devant... Alors comment produire un concept de religion qui inclut les deux? Voilà, c'est ça, me semble-t-il, ou une représentation de la religion. Et j'essaie de dire ça en disant qu'il y a deux définitions de la religion, des définitions hautes, hein, par l'individu dans sa relation de foi avec une transcendance, etc., et des religieux, et des définitions basses. Et ce que j'appelle mon modèle d'Urquemo-Mossien-Girardien, c'est d'essayer de rendre compte de ces deux niveaux. Et alors, à ce moment-là, on peut voir les trois fonctions qui me paraissent fondamentales de la religion basse, hein, et que j'ai appelées, donc, la fonction pharmacologique, c'est-à-dire les religions basses sont quand même construites autour, quelque part, de la centralité du rite, et parmi les rites, il y a des rites qui ont une centralité spéciale, qui sont quand même les rites sacrificiels, même s'ils sont considérablement déplacés. Donc, la fonction que j'appelle pharmacologique à cause du pharmakos, la fonction que j'appelle xénologique, c'est-à-dire de la fixation des distances, hein, il s'agit de fixer les conjonctions et les disjonctions possibles avec les altérités. Alors, les altérités invisibles, hein, les dieux, les esprits, les démons, etc., mais aussi les altérités visibles, hein, les étrangers, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Tout ça est classé, ordonné, plus ou moins, taboué, voilà, on a des relations avec ceux-là, on peut échanger, on peut avoir des rapports avec eux, marchands, sexuels et autres, on peut pas, c'est interdit, on va à la catastrophe, enfin, si, etc. Et puis, la relation que j'appelle la fonction d'horologique, c'est-à-dire les régulations de l'échange, et en particulier des dons. Alors évidemment, je sais bien que d'avoir mis le don en troisième plan, hein, la fonction d'horologique au troisième degré, me crée un froid avec mes amis du MOS, parce que bon, ben, la doctrine officielle, c'est que le don est premier. Je ne pense pas que ce soit si simple et que le débat porte autour des dons négatifs, hein, des dons dangereux, hein, des dons dont on se débarrasse. Hein, on peut donner aux autres pour se débarrasser, en particulier la négativité. Et ça, toutes ces sociétés-là le pratiquent. Hein, depuis le malheur qu'on met dans un pot et qu'on laisse dans le chemin, et puis celui qui passe le ramasse. Bon, ben ça, c'est quand même pas du don conjonctif. L'optimisme de mes amis du MOS, c'est de croire que tous les dons sont conjonctifs. Moi, je dis, il y a des dons conjonctifs, mais il y a aussi des dons disjonctifs. MOS avait tout à fait conscience qu'il y a des dons empoisonnés. Hein, on donne le poison comme on donne la vie ou le bien. Hein, et c'est justement l'ambiguïté est là. Hein, à chaque fois, il faut être sur ses gardes, il faut savoir qui donne quoi à qui et pourquoi. Bon, alors, je suis très conscient que toute cette archéologie peut paraître incroyablement décalée, gratuite, par rapport aux questions contemporaines sur le religieux que se pose la sociologie. Cette réflexion sur le sacré, le sacrifice, l'institution, la société, se passe dans des catégories qui aujourd'hui paraissent obsolètes, j'en suis tout à fait conscient. N'est-elle pas passéiste alors que le religieux contemporain en est sorti? Il n'est pas dans la transcendance, il est dans l'immanence, il est dans l'intramondain, mais il est individualisé, il est flottant, il est fluide, il est syncrétique, etc. Alors est-ce que moi, avec mes grosses catégories, là, je ne suis pas complètement à côté de mes pompes? Donc, parvenu au bout, sans bout, de mon archéologie, est-ce qu'il ne faut pas se retourner vers le présent et l'avenir? Hein, et il est évident qu'une archéologie de la religion, hein, ne vaudrait pas une heure de peine, hein, si elle ne nous aide pas à penser mieux le monde tel qu'il va aujourd'hui. Par conséquent, il faut que j'aie une confrontation de ce modèle, hein, qui essaie de reprendre ce qui m'a paru le plus vif et le plus important des intuitions durkheimiennes, mais qui ont un siècle, hein, et mossiennes qui ont un siècle. Hein, est-ce qu'il faut, il faut confronter ça avec notre actualité. Alors c'est ici, me semble-t-il, que Weber paraît inévitable, incontournable, comme on dit aujourd'hui, et je vous ai donné, page 11 à 21 du texte, l'esquisse un peu du livre que je voudrais ou que j'essaierai d'écrire sur Weber si j'ai le temps. Et alors il y a ici des gens qui connaissent Weber beaucoup mieux que moi, et donc leurs critiques et leurs réactions me seront tout à fait précieuses. Et donc, qu'est-ce que je dois rappeler dans cet immense problème? Parce que Weber est vraiment un auteur océanique ou himalayesque. Hein. Et donc, je voudrais rappeler quelques points. Sur l'esprit et la méthode de mon livre, je ne veux pas, contre les utilisations que j'appelle de boîte à outils, Weber est une prodigieuse boîte à outils d'exemples, de cas, de casuistiques, de conceptualisation, etc. Alors, c'est évidemment très tentant d'aller chercher l'outil dont on a besoin pour démonter sa roue. Je plaide pour une relecture et une appropriation de Weber beaucoup plus consciente de son historicité et de la nôtre. Un siècle nous sépare de Weber, et quel siècle ! Quel siècle ! On a quand même vécu des transformations mondiales, hein, et qui s'accroissent aujourd'hui, qui deviennent des avalanches. Hein. Alors, on ne peut pas quand même se contenter de répéter Weber. Toutes les typologies, comme les structures, sont historiques. Je donne l'exemple de l'opposition église-secte. Dans le modèle weberien, hein, les églises sont toutes des églises d'État. C'est-à-dire qu'il réfléchit sur le modèle classique dans les protestantismes et des églises catholiques aussi, qui étaient toutes liées à l'État, hein, de l'époque de l'âge classique. Mais aujourd'hui, précisément, à part l'église anglicane, hein, en Angleterre même, parce qu'ailleurs ce n'est pas le cas, hein, et puis quelques exemples ici ou là, mais toutes les églises ne sont plus, pratiquement plus liées à l'État. Hein, elles sont, donc ça oblige à revoir la typologie. La forme église n'est plus une forme dominante dans la société. Et les sectes modernes ne se définissent pas que par rapport aux églises. Elles se définissent bien plus, par exemple, par rapport ou contre la démocratie, ou par rapport à la démocratie, ou par rapport à l'entreprise. Donc, la forme église n'est plus aujourd'hui une forme dominante comme elle l'était au XVIIe ou au XVIIIe. Ça sent tout de même la typologie. Moi, j'ai été étonné d'entendre des sociologues répéter Weber comme ça dans les débats sur les sectes. Mais on n'est plus tout à fait dans le même monde. Weber parle d'une autre historicité, hein, que la nôtre. Bon. Alors, mon livre partira des paradoxes de la réception. Je prends le mot au sens allemand, réception, hein, c'est-à-dire comment un auteur pénètre dans une culture, est accepté ou refusé par une société. Les paradoxes de la réception de Weber, je dis toujours ce paradoxe, Weber a toujours eu plus de mal à franchir le Rhin que l'océan Atlantique. Aux États-Unis, c'est un prophète, Weber. C'est le prophète de l'américanisme. C'est une mauvaise interprétation pour moi. Mais ils l'ont transformé en prophète du capitalisme, de la société, de la supériorité puritaine, du triomphe de la pensée américaine. Et en France, il y a une résistance à Weber, c'est évident. Donc là, il n'y a pas qu'un problème de différence d'école. Ce n'est pas un problème de Maussiens ou de Durkheimiens contre des Weberiens, de Hollis contre des individualistes. Il y a des idéologies nationales qui se heurtent derrière ça. Il y a des problèmes d'identité. Et je crois que Weber heurte l'identité française moderne, hein, celle issue des Lumières radicales, sur deux points. Un, il reconnaît explicitement les origines religieuses de la modernité. Or, dans la laïcité française, il y a une coupure. Hein. Et deuxièmement, hein, Weber nous dit que la révolution économique du capitalisme est beaucoup plus importante que la révolution politique. Que c'est le capitalisme qui conquiert le monde, alors que les Français sont partis sur l'idée que c'est la République et la démocratie qui doit conquérir le monde. Et donc, il heurte le dogme du tout politique. Et j'en donne un exemple dans la réinterprétation par Gaucher du désenchantement du monde. Gaucher interprète chez Weber désenchantement du monde veut dire sortir de la magie. Chez Gaucher, désenchantement du monde revient à dire sortie de la religion au profit du politique. C'est une extraordinaire récup. Alors j'ai quand même mis des petites pointes dans mon livre là-dessus. Gaucher m'a écrit une lettre très gentille, mais il n'a pas répondu à la question. Bon, on verra peut-être qu'un jour, il y aura peut-être un débat. Mais bon, alors c'est amusant. Bon, en attendant, on peut s'amuser, vous voyez.
Ensuite, deuxième point, c'est le problème de la définition de la religion.
Or, chez Weber, le problème de la définition de la religion est dominé par le problème de la magie. Et là, Weber me pose des questions historiques colossales que je ne vois traitées nulle part. Qui a écrit, sur ce qui pourrait être pour moi le sujet le plus fondamental, le rapport de Weber et de Frazer? Comme Weber ne cite pratiquement jamais ses sources, on est incapable de voir qu'est-ce qu'il a pris dans Frazer. Et là, il y a un travail d'archéologie du texte à faire qui est redoutable. Et en tout cas, je pense qu'il y a chez Weber deux niveaux d'approche de la magie. Il y a précisément une approche, disons, en gros, frazerienne, parce que personne ne peut croire que Weber a ignoré Frazer et ne l'a pas lu. Il l'a lu, c'est évident. C'est évident qu'il l'a lu. Mais il faut voir jusqu'où. Et d'autre part, donc ça, il a une conception large de la magie. Et puis, il a une conception très restreinte de la magie, où la magie, c'est ce qui s'oppose à la religion, comme la volonté de dominer l'objet, hein, religieux, alors que la religion se soumet. Or, cette définition, elle est d'origine calviniste, en fait. Elle a sa forme extrême dans le calvinisme. Je crois que c'est là. Donc, elle a des présupposés théologiques très forts. Hein. Ce qui pèse très lourd sur la démagification, comme sortie de la magie. Alors, Weber réévalue les rationalités de la magie, ça c'est certain. D'un côté, Weber montre pourquoi la magie a une certaine rationalité. Mais le problème est de savoir quelle est la rationalité de la magie. Alors là-dessus, il y a un livre qui vient de paraître qui est très intéressant, le livre de Pascal Sanchez, qui s'appelle « La rationalité de la pensée magique », qui est un travail d'un boudonien et d'un cognitiviste, publié en 2007, qui est très proche de mon bouquin sur la religion. Il fait pour la magie, en beaucoup plus complet d'ailleurs, ce que moi j'ai essayé de faire sur la religion, c'est-à-dire il prend 120 ans de réflexion anthropologique, puis il dit on va essayer de vider la querelle, quoi. Bon, et puis d'aller au fond des trucs. Alors, et il est très boudonien, c'est-à-dire cognitiviste, et il plaide pour une réévaluation de la rationalité de la pensée magique, ce en quoi il a raison. Mais il ne nous dit pas quelle est cette rationalité, parce que ce n'est quand même pas tout à fait celle de la religion, et ce n'est sûrement pas tout à fait celle de la science. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à théoriser cette pluralité des rationalités? C'est parce que, me semble-t-il, il reste prisonnier du triangle de Frazer. Il nous dit, pour penser la magie, on la pense par rapport à la religion et à la science. Or, et il dit, Weber est dans le triangle de Frazer, et tout le monde est dans le triangle de Frazer. Eh bien, moi, je dis, faut sortir du triangle de Frazer. Faut penser la magie, non pas par rapport seulement à la religion, bien entendu, et pas seulement par rapport à la science, bien entendu. Il faut la penser par rapport à la rhétorique. La magie, c'est la rhétorique du rituel. C'est le gars qui essaie ses arguments. On dit, mais les magiciens sont absurdes, ils ne se rendent pas compte que leur discours échoue. Nous, les savants, on est rationnels, parce que notre discours, nous, on sait qu'il marche. Et on ne répète pas les mêmes combines et les mêmes idioties. J'ai envie de dire à ces scientistes, quand même, est-ce que vous diriez qu'un homme politique de l'opposition, qui sait qu'il ne pourra pas retourner l'Assemblée, mais qui fait quand même son discours, est un imbécile qui respecte, qui n'a pas d'esprit scientifique? Non, il essaye une rhétorique. Il essaye une rhétorique. Il sait bien que quand on parle, on ne gagne pas à chaque fois. Il sait bien qu'il ne pourra pas retourner l'Assemblée. Que les forces devant lesquelles il est sont plus fortes que lui. Mais il va quand même placer ses billes. Il va mettre ses petits arguments. Il va faire son petit rituel. Et puis, il essaye. Il essaye. Donc, si on pensait la magie à l'intérieur d'un quadrilatère et non plus d'un triangle, hein, science rhétorique et religion magie, on pourrait comprendre la rationalité restreinte, mais réelle, des conduites magiques. Et on comprendrait pourquoi la magie revient, quand le pathos revient, et quand l'éthos est incertain. Et ça, j'ai envie d'écrire quand même un compte-rendu du bouquin de Sanchez pour lui dire ça. Pour lui dire, votre bouquin est passionnant, il est remarquable, il y a plein de bonnes choses, moi j'ai appris beaucoup de choses, mais quand même, sortons du triangle de Frazer, qui est là, on va peut-être reposer la question dans son intégralité. Et je mets ça en rapport avec le fait que chez Weber, il n'y a pas de théorie du rite. Quand même, tout ce qu'il nous dit de la magie et de la religion, c'est toujours vu du point de vue du raisonnement intellectuel, il n'y a pas de rituel. Alors, par exemple, tout le monde de la répétition magique, c'est vrai, mais la magie, c'est le monde de la répétition, comme le discours est le monde de la répétition. Ça passe ou ça passe pas, mais ça n'empêche pas de répéter. C'est pas... J'avais un ami qui avait raté son bac et tout ça, et qui était fort fâché. Et il en faisait reproche à ses parents et leur dit, on devrait dire aux enfants, depuis leur enfance, de travailler. Et sa mère lui dit, mais mon cher ami, on te le dit depuis que t'as 5 ans. Le monde de la répétition rituelle, est-ce que c'est que de la pathologie? Est-ce que... Non. C'est la vie, c'est des logiques, des pratiques, voilà. Mais ça ne marche pas. Mais on le fait quand même. Donc, il n'y a pas là à tirer argument de la bêtise du magicien. Les magiciens, comme tout le monde, ils apprennent, ils oublient, ils refont, voilà. Bon. Alors, donc, après, faut reprendre le problème de la définition de la religion chez Weber. Or, vous voyez qu'elle est marquée par deux traits. L'un, c'est que il a une définition extraordinairement générale et peu spécifique, puisque la religion est une forme de l'action collective. Alors la politique aussi, l'économie aussi, etc. Et donc il n'y a rien de religieux là-dedans. Sauf une approche par l'action qui est fondamentale et qui nous libère d'une emprise excessive d'une approche par les représentations. Et puis de l'autre côté, il n'y a que des définitions historiques, c'est-à-dire la religion, c'est le taoïsme de tel courant, le confucianisme, le néo-confucianisme de ceci, ou telle secte protestante. C'est-à-dire une définition historique, donc totalement singulière. Et donc l'articulation des deux ne pose problème. Or, Weber m'intéresse quand même beaucoup, parce que je crois qu'il confirme et qu'il a eu l'intuition que moi j'essaie de redégager hein, et de reformuler avec ma distinction de la définition de la religion par en haut et de la religion par en bas, ou des définitions hautes et des définitions basses de la religion. Quand Weber dit « toutes les religions traditionnelles ont d'abord été intramondaines », il nous donne quelque chose, il nous dit « voilà, ça se passe d'abord là, c'est de la religion, de la définition basse de la religion hein. ». Et donc les religions extramondaines, c'est des religions historiques, postérieures qu'on voit émerger à partir de religions dont les préoccupations premières ont toujours été intramondaines. Et cette distinction revient dans la distinction très ferme dans sa pensée entre le Heil, qui est le salut santé, hein, que je traduis salut santé, c'est-à-dire le salut dans l'immanence, hein, la prospérité, la fécondité, etc., enfin tout ce que recherchent les sociétés, voilà, dans les religions des sociétés traditionnelles, et l'Erlösung, qui est le salut de ce qu'il appelle les religions, de ce qu'on appelle d'une façon trop restrictive les religions de salut, hein, qui sont des saluts délivrance, et en particulier de l'âme après la mort. Et là, où, dans lesquelles apparaissent une idée de l'individu hein, et du destin de l'individu. Alors que, qu'on le veuille ou non, dans les sociétés traditionnelles, la question du Heil et du Heil collectif est beaucoup plus prégnante que la question de la délivrance individuelle. Alors, vous voyez, on peut donc rejoindre Weber avec ma typologie, mon modèle, et à ce moment-là, reposer la question du rapport de Durkheim et de Weber dans la définition de la religion. Car là, il y a un fait majeur, quand même. On ne peut pas ne pas être sidéré par le fait que les Durkheimiens voient du sacré au milieu du religieux, alors que les Weberiens n'en voient pas. Hein. Alors, je crois qu'il y a trois explications à ce fait. Hein. Ce fait est tout de même étonnant. Hein. Ils ne travaillent pas tout à fait sur les mêmes matériaux. Hein. C'est vrai que les Durkheimiens ont privilégié des matériaux archaïques. Pensez au problème du tabou. Si Weber a lu Frazer, qu'a-t-il fait des tabous? Parce que quand on lit Weber, les tabous sont partout. Mais dans la magie, chez Weber, il n'y a plus de tabous. Où est-ce qu'ils sont passés, les tabous? Or, chez Frazer, ils sont partout, les tabous. Et les Durkheimiens, eux, ne les ont pas oubliés. Donc, il y a un problème là sur le matériau. Deuxièmement, ils ont un autre classement magie-religion. Par l'exemple le plus typique, c'est que Weber met dans la magie le don. Pourquoi? Parce que Weber pense que tout don est un do ou des. Donc c'est une contrainte. Je te donne pour que tu me rendes. Donc c'est une contrainte magique sur autrui. Donc ça rentre dans la magie. Alors que Mauss autonomise le don par rapport à la magie. Pour Mauss, le don est un phénomène qui circule dans toute la société et qui est un rapport qui excède la magie. Et surtout, il y a quand même quelque chose qui, chez Weber, permet de se rapprocher de l'opposition du sacré et du profane, bien que ce ne soit pas sous ces termes-là dans sa pensée, c'est l'opposition du quotidien et de l'extra-quotidien. Et là, c'est une catégorie fondamentale. Car Weber est convaincu que le religieux naît de l'extra-quotidien. Alors, je ne dis pas que c'est l'effervescence durkheimienne, mais ça peut s'en rapprocher. Et c'est en tout cas le charisme, car le charisme est extra-quotidien. Il est toujours de l'extraordinaire et de l'extra-quotidien, qui ne sont pas les mêmes catégories, mais il est les deux. Et le destin des religions est commandé par ça, car une religion qui réussit pour Weber est une religion qui vient s'installer dans le quotidien, qui vient structurer le quotidien, qui vient transformer le quotidien. Autrement dit, il faut que le religieux agisse sur le profane, ne serait-ce que pour le garantir. Hein. Mais en même temps, le religieux s'y détruit, parce qu'en devenant, en transformant le quotidien, justement, il se quotidianise, et par conséquent, il perd sa relation avec l'extra-quotidien. Et donc, je pense que dans la dialectique très hegelienne d'ailleurs, du quotidien et de l'extra-quotidien chez Weber, on a quand même quelque chose qui n'est pas sans essayer d'articuler beaucoup des points que les Durkheimiens essaient d'articuler autour du sacré et du profane. Ce n'est pas les mêmes catégories, mais il y a quand même des recoupements. Donc on n'est quand même pas dans des planètes totalement séparées. Alors, le troisième niveau de mon argumentation, après donc la réception de Weber, le problème de la magie, de la définition de la religion, la troisième partie, ce serait les catégories de la modernité et de la transformation du religieux dans la modernité. Alors, ce qui me paraît fondamental chez Weber et que je voudrais honorer, c'est la pluralité des catégories des transformations du religieux dans la modernité. C'est-à-dire, il parle de quotidiennisation, hein, Veralltäglichung, il parle de sécularisation, il parle de mondanisation, il parle de rationalisation. Enfin, il y a cinq ou six catégories fondamentales. Or, je crois que l'erreur des théories de la sécularisation, c'est d'avoir voulu tout ramener au modèle de la sécularisation. La sécularisation est une des modalités des transformations du religieux. Et là, je crois qu'on a appauvri la pensée de Weber. Et on l'a appauvri par une espèce de hâte qui est toujours celle des écoles. Si vous voulez, hein, quand il y a un génial fondateur, un Thomas d'Aquin, un Augustin, un Descartes, alors on veut reconstruire le système et on reconstruit le système en simplifiant les intuitions du maître. Alors que je crois que chez Weber, il y a précisément, il nous ouvre plein de portes. Tous ces phénomènes-là ne sont pas de même niveau. Ils ne sont pas de même niveau historique, de même niveau géographique. Hein, leur répartition géographique pose des grands problèmes. Et puis, ils ne sont pas de même niveau anthropologique. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les mêmes choses. Hein. La démagification est le rapport au fonctionnement des signes. Hein. Il y a bien une magie du signe. Hein. Et par exemple, moi, je conteste ce thème de l'enchantement du monde sur lequel on en fait une soupe, hein, alors que c'est un thème d'une extrême complexité. Hein. Le monde de la magie est aussi le monde de la terreur. Il ne faut pas l'oublier. Dans la magie, il y a la sorcellerie. Et ce n'est pas du tout... Alors, c'est un monde enchanté en ce sens que, en effet, dans l'invisible, on vous balance des bolides comme ça qui traversent l'espace. Mais lisez un bouquin comme L'élance du crépuscule, là, du successeur de Lévi-Strauss là, au Collège de France, d'Escola, hein, qui vous raconte très bien la vie des sorciers givrants, qui monte la garde toutes les nuits là, pour arrêter les bolides des autres qui leur envoient les maladies, etc. C'est à la fois un monde merveilleux, parce que ça circule en tapis volant dans tous les sens, mais en même temps, c'est un monde de la terreur. Alors moi, je m'étonne qu'on parle de démagification comme ça, et de désenchantement. Vous voyez ? Bon, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein ? Bon. Alors, donc, il faut repenser cette pluralité des catégories. Voilà, ça, j'essaierai de réarticuler ça. Ça me paraît tout à fait fondamental. Alors, ceci, et puis, il y a quand même une deuxième limite. Alors, après, il y a le problème, est-ce que la sécularisation chez Weber va jusqu'au bout ? Ben, c'est le problème du charisme, quand même. Hein ? Car la doctrine du charisme, si complexe, dans ses sources à la fois théologiques et romantiques, hein, parce qu'elle a une double source, à mon avis, théologique, elle vient de la théologie de la grâce, mais elle est aussi, quand même, elle a tout un héritage du romantisme allemand, de l'inspiré, du héros, du grand homme. Hein. Et elle fait un lien substantiel entre la magie, la religion et la politique. Hein. Et donc, il y a là, sans doute, un irréductible, quelque part, chez Weber. Hein. Je pense que il y a là un irréductible. Donc, vous voyez, il faut interroger les ambiguïtés du désenchantement du monde, de la démagification, du désensorcellement, de la sécularisation, etc. Et donc, reprendre le discours de la pluralité des rationalisations, qui, moi, me paraît la grande découverte de Weber, sa rupture avec l'hegelianisme, si vous voulez. La rupture de Hegel, de Weber avec Hegel, c'est que faut mettre la rationalité au pluriel. Et donc, les rationalisations sont un processus sans fin, hein, qui est constamment repris, hein, et qui ne peut pas faire une somme. D'où, d'ailleurs, chez Weber, une sourdine tragique. Hein. C'est pas un hasard si tous ces grands livres, qui sont des livres sur l'épopée de la rationalisation, d'une certaine façon, se terminent à chaque fois en disant « Oui, mais tout ça, ça peut se casser la figure. Hein. » Tout peut être à recommencer. Alors cette sourdine tragique, je crois qu'elle est d'origine nietzschéenne, hein, mais il faut la penser dans sa spécificité de Weber. Et enfin, le dernier chapitre, partie que je voudrais traiter à propos de Weber, et je vais en avoir fini, et je vais avoir à peu près tenu mon temps, c'est le problème des valeurs. Je crois que c'est la question la plus fondamentale, et celle sur laquelle on s'attend tous, hein. Je crois qu'il l'a élucidé avec une honnêteté et une force intellectuelle exemplaire en nous laissant devant une aporie. La science, alors depuis Hume, hein, qui est l'inventeur de cette distinction et qui a été constamment confirmé par les épistémologues depuis, la science est fondée sur la distinction des jugements de fait et des jugements de valeur, donc une rupture avec les valeurs, mais le savant garde un rapport aux valeurs. Hein, car le savant ne ferait même pas de la science s'il n'était pas convaincu de la valeur de la science et de la valeur théorique, etc. Donc, comment articuler cette, ça? Donc, c'est le paradoxe de la science. Et puis, le deuxième niveau où, Weber pose le problème, c'est qu'il semble nous dire quelque part, la sortie du monothéisme nous laisse devant des conflits de valeurs insurmontables et ingérables, hein, qu'il appelle la guerre des dieux. Hein, qui est la guerre des dieux. Hein. Donc, mais cette guerre des dieux, il ne nous explique pas pourquoi elle est là. Il la constate, elle revient, hein, mais quelles sont... Alors, les raisons historiques, ça, il est dit à peu près, mais les raisons anthropologiques, pourquoi l'homme est bâti pour que ces dieux se battent. Vous voyez, c'est quand même... Qu'est-ce qui fait que, chez l'homme, les dieux sont amenés à se battre? Alors, c'est cette question-là que je voudrais essayer d'éclairer, en reposant le problème des valeurs. Et donc, je crois qu'on peut aller plus loin, et qu'il le faut, car rien n'est plus important que ce problème des valeurs, aussi bien dans le champ politique que dans le champ religieux. Elles sont au cœur des conflits humains en général et des conflits religieux en particulier. Et là, on se rapproche de notre sujet sur le risque. Dans l'histoire des religions, le rapport aux valeurs va ou oscille du fanatisme à l'indifférence. Et dans l'histoire des idées, le statut des valeurs oscille entre, je dirais, l'éternisme ou l'éternité des idées platoniciennes, ou les valeurs, les idées platoniciennes, qu'est-ce que c'est? C'est des valeurs collées au ciel doré de l'immortalité. Hein, voilà, et elles sont immuables, elles sont fixées une fois pour toutes. Platon a trouvé la meilleure solution au conflit des valeurs, c'est de les fixer à la voûte céleste comme des étoiles, et puis on n'a plus qu'à les regarder et puis essayer de les appliquer. Hein, voilà. Et donc, au nihilisme contemporain, le nihilisme, c'est un monde sans valeur, où toutes les valeurs n'ont plus de valeur, c'est la dévaluation de toutes les valeurs.
Hein. Alors Weber est au cœur de ça. Or, moi, je pense que on peut peut-être essayer de reprendre les choses d'une façon, avec un modèle plus proche des pratiques, et donc de l'empirie. Prise objectivement et par l'extérieur, qu'est-ce que les valeurs dans la vie sociale? Dans la vie sociale, les valeurs sont des synthèses de logos, qu'a raison une rationalité, la liberté, l'individualité, la beauté, etc. C'est des idées qui ont une rationalité. Il y a du pathos, parce que s'il n'y a pas de pathos, on n'y croit plus, on s'en détache. Hein, où elles nous attirent, où elles nous répulsent, mais au moins, si, elles ne doivent pas nous laisser indifférents. Donc, si elles ne nous laissent pas indifférents, il y a du pathos. Et puis, il y a de l'éthos, parce que si on y colle, plus ou moins, ou si on les combat, eh ben, on en tire des conséquences, et ça passe dans une éthique, ça crée un éthos, comme dit très bien Weber. Hein. Donc, c'est donc une synthèse socialement reconnue de logos, de pathos et d'éthos. Mais du point de vue du sujet, une valeur est l'intériorisation de ces représentations socialisées qui règlent toutes des procédures de conjonction ou de disjonction. Ça, c'est les valeurs que tu peux chercher. Ça, c'est les valeurs que tu dois éviter, dont tu dois te disjoindre. On retrouve toujours ce problème qu'essaie de régler les systèmes sacrificiels, qui est le système de la conjonction et de la disjonction. À quoi je dois me conjoindre? De quoi je dois me séparer? Mais du point de vue de l'adepte, de l'adhérent, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur est une affirmation toujours hyperbolique, hein, qui contient un potentiel, mais aussi une négativité. Et c'est ça qui n'est pas vu. Car on insiste toujours sur le côté hyperbolique de la valeur. L'adhérent à une valeur l'envoie toujours de façon hyperbolique. Hein. Mais, comme affirmation, si Spinoza a raison, omnis determinatio negatio. Et justement, c'est ça le paradoxe des valeurs, c'est que ce sont des affirmations qui contiennent plus de négativité que les autres. C'est-à-dire plus de possibilité de refouler autre chose. Autrement dit, une valeur n'est pas qu'un classement. Et c'est ça mon opposition à Lévi-Strauss.
parce qu'il pense que le fonctionnement fondamental de l'esprit est du côté du classement. Moi, je pense que le fonctionnement fondamental de l'esprit est du côté des jugements de valeur. Nous sommes d'abord dans les jugements de valeur. Nous vivons d'abord dans les valeurs. C'est par un processus de neutralisation que nous arrivons à des classements neutres. Mais nous sommes d'abord dans des classements axiologiques, qui sont à la fois donc des affirmations hyperboliques, mais qui ont aussi une capacité de refoulement considérable et une négativité. Donc une valeur n'est pas qu'un classement, ni même un jugement de préférence poussé à bout. Elle plonge peut-être ultimement dans des mécanismes de défense. Et quand vous voyez d'ailleurs dans le discours politique ce que j'appelle la montée aux valeurs, comme on l'a eu récemment là avec Bush et les autres, vous voyez, faut défendre les valeurs de l'Occident, on est dans l'antichambre du discours guerrier quelque part. Hein ? Donc la montée aux valeurs n'est pas neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça marche. Hein ? Et donc, il faut réfléchir aux valeurs donc dans une perspective biologique et pharmacologique. Biologique, c'est-à-dire dans leur rapport à la violence, et pharmacologique, dans les procédures que les hommes mettent pour apprivoiser la violence. Les valeurs sont à la fois un moyen d'apprivoiser la violence quand ça marche, et d'en faire un bon usage social, mais quand ça se dérègle, hein, ça peut emporter la machine. Et donc je crois qu'il faut réfléchir à ça. Alors, et ce qui me permettrait de confirmer cela, c'est les liens entre les valeurs et les identités. Car quand il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus d'identité non plus. Et le discours de l'identité est bien un discours de redéfinir des valeurs groupales, que ce soit une identité nationale, ethnique, etc. Et là, il y a tout de même une énorme littérature sur le problème de l'ethnie et de l'ethnicité dans les sociétés contemporaines, qui est quand même bien lié au problème des valeurs. Ce fractionnement des grandes nations, par exemple aujourd'hui, en micronationalisme autour d'identité, y compris au cœur de l'Europe, hein, en micro-identité, se fait dans des définitions identitaires par rapport aux voisins et dans des réaffirmations de valeurs spécifiques au groupe. Donc, je crois que ceci nous amènera à repenser ce qui paraît moi au cœur du politique, hein, qui n'est pas la domination, comme le dit la lecture de Bourdieu, parce que Bourdieu est quand même, a le mérite d'être le sociologue français, je dirais, qui a fait accepter Weber à gauche. Hein, il a fait passer Weber à gauche dans le discours contemporain, alors qu'avant, Weber était dans la pensée libérale, Aron, etc. Mais Bourdieu a mis au centre de la pensée de Weber la domination, ce qui est bien une façon de ramener Weber au tout politique français. Hein, et dans un discours, j'ai dit quelque part dans mon texte que les intellectuels français s'étaient fait, s'étaient donné leur identité autour de la définition légitime de la Révolution. Et que c'était de ça qu'ils étaient privés aujourd'hui. Personne ne leur demande plus leur définition de la révolution légitime. Alors Bourdieu, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que son concept de domination qui reprend à Weber. Mais je pense, moi, que le problème de la domination n'est pas aussi central que le croit Weber. Le problème fondamental, peut-être, c'est le problème de la protection. Si les hommes acceptent les dominations, c'est qu'ils ont peur et c'est qu'ils croient que, malgré tout, la domination les protège. Et donc, nous amènerait à réfléchir, justement, en conclusion, au problème du mal. Je pense que chez Weber, il y a une réflexion remarquable, commencée autour du thème de la théodicée. Mais la théodicée, c'est aborder le problème du mal à partir de la religion, et de la religion par en haut. Parce que la théodicée, c'est de savoir comment un Dieu bon peut tolérer un monde mauvais. Or, je pense que cette problématique est très restreinte, elle est liée à la définition haute de la religion, alors qu'il y a dans toutes les cultures ce que j'appelle des cacodicées, c'est-à-dire non pas des justifications du bien par rapport au mal, mais des justifications d'un moindre mal. Et que la pensée sacrificielle est quand même une pensée de la cacodicée, c'est-à-dire de dire ça pourrait être pire. Il faut passer par là, il faut faire ces concessions-là au mal pour éviter le pire. Et donc, je crois qu'il faut compléter l'approche weberienne par une approche par en bas, dans le cadre de définition basse de la religion, où les hommes tendent le dos au malheur et essaient de s'en protéger au moindre coup. Et donc, avec la question du mal, du malheur et du danger, d'ailleurs, on retrouve le pathos, et avec le pathos, on retrouve le foyer jamais éteint du questionnement, et je crois de la production des idéologies, et de la protection contre le mal, ce que j'appellerais la pharmacologie. Et donc, cette problématique d'une pharmacologie des idées et des valeurs pourrait éclairer la production des idéologies, leur différence avec la science et le paradoxal rapport de la science aux valeurs. La science
a sa raison d'être la plus immédiate, comme les idéologies, dans la misère du monde, hein, mais elle n'est possible que si elle peut, à la différence des idéologies, s'en séparer, c'est-à-dire se rendre apharmacologique. La science est un processus de neutralisation. Et ça, il faut réfléchir à ça, au moins provisoirement. Et donc, nous verrons tantôt l'importance de ce point pour réfléchir à la modernité, à sa genèse, à ses relations aux religieux, mais aussi pour réfléchir aux risques que comportent les prodigieuses mutations contemporaines de cette modernité, à la fois hantée par d'anciens et de nouveaux dangers, mais aussi qui a des moyens sans commune mesure avec ceux du passé. Voilà, merci. J'ai été un peu trop long, mais j'ai essayé de vous synthétiser ça.